ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade. Ravi de vous retrouver pour passer une petite heure en votre compagnie. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 7 juin 2022 et il fait beau dans le Beaujolais. Malgré quelques nuages, on profite de températures qui montent à 24 degrés environ cet après-midi. Dans notre émission, on profite de plein de belles choses aussi, notamment les deux chroniques du mardi. On a rendez-vous avec le coach et Bertrand Lamure, notre libraire. Et puis on va profiter de la présence de notre invité aussi pour parler musique aujourd'hui. On reçoit Ulysse von Ecstasy. Alors avec un nom comme ça, on peut s'attendre, en tout cas moi je m'attendais à du gros boom boom, de la musique de club venue du nord de l'Europe. On n'y est pas vraiment, on parle plutôt de folk avec Ulysse von Ecstasy, mais pas une folk classique, c'est plutôt comme si Tim Buckley avait suivi Alice vers le pays des merveilles. L'artiste que l'on reçoit aujourd'hui est lyonnais, il balade ce projet musical depuis quelques années déjà. Un premier EP est sorti au mois de mai, il y a quelques semaines, ça s'appelle Ghost in Daylight, des fantômes à la lumière du jour, et ça résume bien sa musique, une mélancolie entourée de lumière et d'optimisme. Je pourrais vous en parler longtemps de sa musique, mais le mieux c'est encore de l'écouter. Parmi les 5 titres qui composent cette EP, j'ai choisi Earthquake pour commencer notre émission avec Ulysse von Ecstasy. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15, merci d'être avec nous.
Thank you.
c'était Ulysse von Ecstasy avec un titre qui s'appelait Earthquake.
Ensemble sur Calade.
Et il est avec nous en studio, Ulysse von Ecstasy. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes.
Je ne vais pas vous embêter avec ce nom, Ulysse von Ecstasy, savoir
merci.
Où ça vient, pourquoi. J'aimerais apprendre à vous connaître autrement, peut-être parler de votre parcours.
Oui.
Comment est-ce que vous avez commencé la musique ?
J'ai un parcours un petit peu atypique parce qu'en fait moi j'ai fait de la musique pour mon plaisir assez longtemps dans ma vie, on va dire. Et c'est que très tardivement je me suis un peu révélé à ça parce que j'étais occupé à faire pas mal d'autres choses, notamment des longues études dans le domaine de la biologie. Et c'est une fois devenu chercheur en biologie que j'ai vraiment pris la tangente et que j'ai décidé de faire de la musique vraiment mon métier, mon cœur d'activité.
Ouais.
Et je suis retourné sur les bancs de l'école, plus ou moins, parce que je suis retourné au Conservatoire de Lyon pour suivre un dispositif de 2 ans en musique actuelle. Mmh. Ça, c'était en 2016. Et ensuite, je me suis vraiment lancé avec mon projet Ulysse von Ecstasy à ce moment-là et commencé à faire des concerts, etc.
Il y a toujours le côté recherche, même dans la musique. Du coup, on n'est plus en biologie, mais dans les sonorités et ce qu'on peut faire avec la musique, c'est resté ce côté expérimenter, tenter des trucs.
Ouais, carrément. Je pense que je suis toujours un peu un chercheur dans ma tête et dans ma manière de faire. Un chercheur de son plus qu'un chercheur en biologie, on va dire. Ouais, dans le domaine de la biologie, c'est une recherche artistique. En plus, je suis accompagné par des gens qui ont un peu la même fibre que moi. On pourra en reparler pour le disque. On s'est vraiment éclaté à chercher des choses et à fouiller, à expérimenter, à rentrer dans des machines. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi. Ouais.
Ulysse von Ecstasy, il est né vers 2017, je crois.
Ouais, un petit peu avant.
Ouais.
Autour de 2016-2017, c'était les tout débuts et c'était mon premier projet où je chantais et je jouais de la guitare, puisqu'avant j'étais batteur dans les groupes.
Dans d'autres groupes, dans d'autres projets.
Mmh.
L'idée de base, parce que j'imagine qu'en 5 ans, le projet a beaucoup évolué. Est-ce que l'idée de base qu'il y avait derrière ce projet, elle existe toujours ou ça a complètement changé ?
L'idée de base, en fait, c'est que justement, c'est quelque chose qui peut aller vers beaucoup de choses, parce que j'ai beaucoup d'envie musicale et j'espère pouvoir les explorer dans ma vie. Et c'est vrai que j'ai commencé avec une formation plutôt typée rock psychédélique, on va dire. Et là, je me suis orienté effectivement ces dernières années sur des titres plus folk. Mais c'est un univers qui me correspond aussi très bien et dans lequel j'ai beaucoup d'appétence artistique. Et donc, beaucoup d'artistes qui me parlent dans ce genre-là. Mais effectivement, je pense que je vais aussi faire d'autres choses plus tard. Mais pour l'instant, je suis en train de creuser un sillon folk qui est bien, bien intéressant, quoi.
Ouais. Alors, on aime bien mettre des étiquettes sur les artistes. Pour vous, c'est un peu compliqué parce qu'il y a ce côté folk qui revient, mais c'est pas de la folk pure et dure. Ça divague, ça se balade un petit peu. Psychédélique, ça vous va comme mot ?
Ouais, j'aime bien ce mot-là parce que justement, c'est un terme qui rapporte à la musique expérimentale et puis un peu foutraque et puis aussi des expérimentations des années 60 qui forcément une musique à laquelle je suis très attaché. C'est vrai que la musique psychédélique, ça veut pas dire grand chose, ça peut être tout n'importe quoi. Mais c'est vrai que comme on aime bien mettre des étiquettes aux gens, on est obligé de se rapprocher plus ou moins d'un genre et d'un courant. C'est plutôt bien. Ouais.
Psychédélique, ça marche. Je disais mélancolique aussi dans l'introduction de l'émission. Est-ce que ça vous va aussi, mélancolique,
ouais. Oui, particulièrement sur ce disque, je pense. C'est pas forcément mon état d'âme général. Après, quoique souvent, j'aime... Enfin, je pense que je compose quand même beaucoup de musique mélancolique au final. Mais c'est vrai que ce disque-là, il y avait un besoin d'exprimer des choses qui était assez sombre finalement et c'est en le faisant que je m'en suis rendu compte parce que c'est vrai que j'étais pas forcément parti pour faire un disque sombre et au fur et à mesure de la production du disque on s'est rendu compte qu'on était en train de faire ce disque un peu dark et qui a cette beauté voilà mélancolique que je pense que auxquels certains sont sensibles, je pense.
Et je trouve que dans justement Ghost in Daylight, j'ai l'impression qu'il y a une grosse recherche de vraiment d'esthétisme pur, d'aller chercher le son beau, et il y a eu ce travail-là de vraiment la base de l'art, c'est de faire quelque chose de beau. Et enfin, j'ai ressenti ça en écoutant la musique, c'est qu'on allait chercher une petite envolée, et ça va être chouette.
Oui, c'est vrai. Oui, moi, j'ai déjà cette fibre-là, et puis en plus, j'ai travaillé sur ce disque avec Teddy Elbaz, qui est un musicien, producteur, enfin qui fait beaucoup de choses, qui a beaucoup de casquettes, et qui est très fort aussi en production, en studio, et qui avait bien aussi envie d'aller dans ses sons, et c'est ça qui aussi m'a plu pour travailler avec lui, c'est que j'avais écouté ses autres productions de disques. Et il a intégré des nouvelles machines, ça. Donc il y avait cette recherche autour des sonorités, de la pureté du son, effectivement. Et on s'est aussi mis en tête des références qu'on avait comme ça de groupes post-rock ou folk moderne actuellement qui ont cette sensibilité à l'esthétique, à la pureté, puis aussi avec la voix. C'est vrai que la voix, c'est aussi quelque chose dans lequel j'essaie de creuser.
Qui est très travaillé.
Une esthétique, ouais.
Et dans la façon dont sont créés les morceaux, on parle de la folk où il y a vraiment une base couplet-refrain assez récurrente. Là, les morceaux, ils sont très libres et il y a peu de structure dans ces morceaux. Quand on crée et qu'on compose, comment on fait quand on est en dehors des cadres habituels ? C'est une liberté supplémentaire ou ça complexifie le truc ?
Moi, j'ai toujours vu ça comme une liberté. Et puis, c'est vrai que je suis pas forcément très friand des formats classiques de la pop musique. J'aime bien ça, j'aime m'en faire, mais c'est vrai que j'aime bien aussi me départir de ça et prendre les chemins de traverse. Et puis, voilà, c'est la manière aussi dont je compose et je construis mes morceaux. C'est pas forcément conscient. Mais j'aime bien passer par différentes phases dans un morceau et d'accompagner comme ça le public à faire un espèce de voyage, finalement. C'est vrai qu'il y a quand même l'idée de voyage dans musical dans mes titres,
avec des fois des gros virages. On a eu 2-3 minutes de musique dans un certain genre et puis toute la fin du morceau, je crois que c'est Peace of Mind que j'ai en tête, qui ça part sur des nappes totalement différentes.
Ouais, il y a un peu cette idée de on ouvre des portes comme ça et on se retrouve dans un autre espace. J'aime bien en tant quand je reçois de la musique, que j'écoute de la musique, j'aime bien justement être surpris par les artistes quand ils font une proposition comme ça on a écouté un morceau, on s'est baladé, puis d'un coup hop, ça, on ouvre sur autre chose. Et j'avais très envie de faire ça pour la fin de Peace of Mind, et on l'a enregistré en plus en live à trois, enfermé dans le studio. Enfin voilà, on a créé une atmosphère que j'ai trouvé tout à fait propice à la fin de ce morceau, ouais.
Et Ulysse One Ecstasy, c'est un projet qui a commencé en groupe. Pendant un moment, vous avez été en solo et là, vous êtes à nouveau en trio. Revenir au trio et à quelque chose d'un peu plus collectif, ça permet aussi peut-être plus de choses. C'est ça que vous recherchez ou
Ouais, je crois que je recherche juste la compagnie des gens. Ouais. ça reste quand même un projet solitaire à la base, parce que c'est vrai que j'écris mes chansons, j'ai créé ce projet-là tout seul, et puis j'écris mes chansons dans mon coin à la base. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai appétit, un vrai intérêt pour le travail en groupe, parce qu'effectivement, ça permet plein de choses, et puis de travailler avec d'autres sonorités, aussi d'autres manières de faire, des gens qui viennent d'autres horizons. En fait, c'est un enrichissement permanent de travailler avec d'autres personnes. Et donc là, je suis très content de pouvoir le faire. Après, c'est pas toujours facile de s'entourer, parce que il y a aussi des raisons économiques. On peut pas forcément faire des concerts plus facilement quand on est nombreux sur scène et tout ça. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment une volonté que j'ai de pouvoir continuer de jouer en groupe, à côté de concerts que je fais en solo aussi, parce que c'est aussi une de mes aspirations.
Ouais. Et les concerts en solo, c'est guitare-voix.
Ouais, alors du coup, je reviens à un format plus épuré, guitare-voix. C'est ce qui fait que ça sonne beaucoup plus folk, même si je m'amuse à faire des boucles avec ma voix et j'ai toujours mes effets de voix très présents dans ma production. Donc c'est assez planant. On retrouve quand même le côté planant de ma musique. Mais en plus épuré, effectivement, en trio, on a... Voilà, là, pour ce qui est de ce disque, on a travaillé avec, j'ai travaillé avec Audrey au violoncelle et Teddy, donc, que j'ai déjà cité, au synthé et machine. Et c'est vrai que là, on a pu faire deux concerts en trio. Et c'est vrai qu'on ça part vraiment dans d'autres choses. Et c'est aussi plus énergique. Voilà, on a des séquences de machines.
Le violon aussi, il sert à cet univers planant, justement, avec la sonorité même du violon. Est-ce que vous êtes parti de morceaux qui existaient déjà, que vous aviez en solo, et les deux artistes qui vous ont rejoint sont venus ajouter leur univers, ou est-ce que vous avez créé spécialement pour ce projet en trio ?
Non, en fait, je n'avais pas forcément en tête d'enregistrer ces titres-là sous cette forme-là. Je les ai écrits vraiment en guitare-voix, et puis moi j'ai fait un peu de production chez moi, sur ordinateur. Et c'est vraiment au moment de la discussion de faire ce disque qu'on c'est venu petit à petit, en fait. Ça s'est fait petit à petit et la patte et la prise, la patte sonore, elle s'est créée un peu au fur et à mesure. C'était pas prémédité. Et c'est aussi ça que j'aime bien, c'est le fait d'être surpris soi-même par le processus de création. C'est intéressant.
Pas savoir trop où on va.
Oui, voilà.
Et se perdre dans la musique.
Exactement.
Cette musique, elle est gravée maintenant dans un EP.
Oui.
Et vous l'êtes
content.
C'est un parcours du combattant de sortir un EP.
Ouais, ça l'a plus ou moins été. Enfin, ça a été d'autant plus que là, ça a été une période compliquée pendant 2 ans. Et ça a ralenti le processus de création et puis aussi de production et de financement. Donc c'est vrai qu'on a eu un peu des bâtons dans les roues à toutes les étapes, mais ouais, je me suis accroché et puis c'est vrai que j'ai essayé de partir sur quelque chose de pas trop ambitieux au départ pour me dire voilà, je veux le mener au bout et donc ce disque-là je l'ai autofinancé et puis j'ai aussi fait appel à la générosité de tout le monde parce que j'ai lancé un financement participatif
qui se fait beaucoup les campagnes de financement.
Voilà, tout à fait. Moi, c'était mon premier et puis premier financement participatif, donc c'est vrai que j'ai pas mal défriché tout ça. Et donc voilà, je suis très content qu'on arrive au bout et que ce disque soit enfin disponible.
Ouais. Et vous le jouez sur scène, et vous le baladez avec vous maintenant, depuis le 20 mai.
Voilà.
Comment est-ce qu'on vous suit ? Comment est-ce qu'on se tient au courant de l'actualité du Lys Van Ecstasy ?
Eh ben, sur les réseaux sociaux, pour ceux qui sont adeptes de ça, j'ai une page Instagram que j'anime assez régulièrement, et puis sur Facebook également. Et vous pouvez aussi vous inscrire à une newsletter. J'envoie des petits mots, des actualités assez régulièrement. On peut s'inscrire en retrouvant les infos, je pense, sur Facebook. Voilà, en tapant sur mon nom, on peut trouver des infos. Il y a un très joli clip qui est sorti au mois d'avril, là, qui est en train de se balader sur les internets actuellement, sur le titre Firebird. Et voilà, j'espère qu'on fera plein de concerts à la rentrée. Là, on va être un petit peu en pause cet été parce qu'il va y avoir d'autres projets. Voilà, je vais travailler sur d'autres choses. Et puis, il va y avoir un enfant qui va arriver aussi dans le groupe pendant l'été.
D'accord.
Donc voilà, il va y avoir un petit peu de pause pour laisser place à la vie, on va dire. Mm. Et puis, cet automne, on reprendra la route des concerts, j'espère, avec des belles tournées en trio et puis des concerts en solo aussi.
Ouais. Est-ce qu'il y a des projets d'albums ? De faire une œuvre un peu plus grande, peut-être pas tout de suite cette année, mais est-ce qu'il y a déjà des idées qui se profilent ?
Oui, il y a cette envie-là, effectivement, c'est aussi pour prolonger un peu l'expérience qu'on a eue sur cette EP, parce que ça a tellement bien marché humainement, artistiquement. C'est vrai qu'on a envie, puis voilà, moi j'ai quand même beaucoup de musique en stock que j'aimerais enregistrer, donc c'est vrai que l'idée d'un album est quelque chose qui est très présent à l'esprit, et j'espère qu'on trouvera aussi des partenaires pour nous accompagner sur cette longue route, parce que c'est vrai que c'est un cheminement, comme je le disais, et voilà, pour nous financer, nous aider aussi psychologiquement dans les moments difficiles, et puis voilà... faire grandir ce projet artistique.
Très bien. Bon, on a hâte de vous suivre, de voir la suite de ce qui va arriver à Ulysse Von Ecstasy. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.
Avec grand plaisir, merci à toi.
On se quitte avec le titre Firebird, justement,
yes.
Dont le clip est en ligne. À tout bientôt. C'était Ulysse von Ecstasy sur Calade avec ce titre Firebird, donc, qui a retrouvé. Il y a un super clip qui l'accompagne, à retrouver sur un petit peu toutes les plateformes.
Ensemble sur Calade.
Le coach.
Et oui, il est l'heure de retrouver le coach tout de suite. Bonjour, coach.
Salut, gamin.
Salut, vous allez bien?
Ça va bien, et toi?
Eh ben ouais, ça roule, ça roule.
Alors, en écho avec la chronique de la semaine dernière qui parlait de l'urgence de ralentir le rythme de nos vies et de celle de nos enfants, je vous propose, mes louloutes, de nous interroger aujourd'hui sur ce que veut dire être présent dans nos actes. Le rythme soutenu de nos journées, rythme qui s'emballe de plus en plus, se nourrit de notre angoisse du vide, de l'impression de ne pas faire suffisamment. Et dans notre société productiviste, le rien faire est très mal vu. Toi qui aimes bien glander, gamin, j'en suis sûr que dès que tu te mets à rien faire, tout le monde te regarde de travers.
Ouais, effectivement, ouais.
Et quand on dit rien faire, il faut l'entendre comme un synonyme de ne rien produire. Ah, et ça c'est caca, hein. Il faut toujours faire plus, plus vite et mieux. Il faut jamais rester sans rien faire, c'est pas bien. C'est la compétition qui a colonisé chaque parcelle de nos vies en quelque sorte. Et dans l'urgence perpétuelle, il est très difficile d'être présent à ce que l'on fait. Difficile de ne pas se projeter dans l'après, de ne pas imaginer le regard des autres sur notre performance. C'est quand même un peu bizarre, parce que même quand il s'agit de se servir ou de faire une tarte aux pommes à des amis, bah, on se met dans une compétition en espérant avoir fait la meilleure tarte aux pommes, alors que c'est impossible pour vous de la faire, cette meilleure tarte aux pommes, puisque vous n'aurez jamais le niveau de la mère du coach qui fait objectivement la meilleure des tartes aux pommes. Il faut reconnaître que c'est difficile de s'extraire de ce rythme de dingue et de réussir à retrouver son rythme. Cette impression d'avoir toujours un temps ou plus de retard est le signe que nous ne sommes pas centrés et présents à ce que nous faisons. Or, nous ne vivons rien d'autre qu'un enchaînement d'instants présents. On ne vit jamais dans le passé ni dans le futur. Être présent, c'est vivre ce qui se passe dans notre présent. C'est cette présence à ce que nous faisons et à ce que nous vivons qui nous permettra de sortir de ce piège du rythme infernal et qui nous permettra de retrouver notre tempo propre. L'avantage d'être présent à ce que nous vivons, c'est que les moments qui semblent improductifs ne le sont plus. La contemplation, la réflexion et même les rêveries sont des moments importants pour plusieurs raisons. D'abord, ces moments d'introspection permettent de s'extraire de l'urgence perpétuelle et de ne plus être sans arrêt dans la réaction. Ces moments nous permettent de quitter le mode de fonctionnement du réagir pour entrer dans celui de l'agir. Parce que réagir, c'est agir en opposition, alors que lorsqu'on est présent, on agit seulement. Les moments d'introspection ont aussi une fonction cognitive. Ils permettent à notre esprit de classer les souvenirs, de faire travailler notre mémoire, de classer les informations et de sortir d'un mode de fonctionnement empreint de stress. Car le stress est un déséquilibre de notre système nerveux autonome. Il a pour but d'être temporaire et de nous permettre de gérer une situation compliquée et urgente. Mais une fois la situation réglée, notre esprit doit retrouver un état d'équilibre. Or, l'empilement des urgences et d'un rythme trop rapide maintient notre esprit dans le stress. Et ça, mes louloutes, ce n'est pas bon du tout. Alors comme ça, gamin, la prochaine fois que tu seras en train de rien glander à la maison, tu pourras juste dire « je ne fais pas rien, je suis en train de faire de l'organisation cognitive
». Très bien, je note organisation cognitive.
D'avoir de la gueule, ça. Hein.
C'est pas mal, c'est une très bonne excuse en plus.
Je ne vais pas vous mentir, mes louloutes, hein. Il n'est pas si facile d'être présent à chacune de nos actions du jour au lendemain. Si vous sentez que vous ne vivez pas selon votre propre tempo et que vous avez besoin de retrouver votre rythme naturel, vous pouvez commencer par préserver des instants de votre journée pour être vraiment présente et présent à ce que vous faites. Commencez par prendre une bonne décision pour vous. Repérez le sentiment de culpabilité qui peut accompagner des moments de contemplation et de rien faire. Et appliquez la méthode qui a fait ses preuves jusqu'à aujourd'hui, la méthode de « je m'en fous, j'en ai rien à carrer ». Prenez une minute au début pour observer ce qui se passe autour de vous et ce que vous percevez à l'aide de vos sens. Que suis-je en train d'entendre dans le moment présent? Que se passe-t-il devant mes yeux? Quelles sont les sensations de mon environnement sur ma peau? La chaleur, la fraîcheur? Est-ce que je ressens le vent? Quelles sont les odeurs qui m'entourent? Ce simple scan de ce que perçoivent vos sens va vous permettre de revenir dans le présent et de développer et cultiver votre présence. Faites de même quand vous vous préparez un thé ou un café, par exemple. Décrivez mentalement tout ce que vous êtes en train de faire en temps réel. C'est ainsi que vous commencerez à développer votre présence. Et cette présence vous permettra de vivre pleinement les moments importants de votre vie sans vous demander ce qui va se passer après ou ce que les autres vont penser de ce que vous faites. En faisant cela, paradoxalement, vous allez gagner du temps et de la qualité de vie.
Merci beaucoup, coach, pour ces conseils qu'on va essayer d'appliquer très rapidement.
Mais pas dans l'urgence, gamin.
Ah non, tranquillement, tranquillement.
Ah, prenez votre temps.
Merci beaucoup encore une fois, à tout bientôt.
À bientôt.
Ensemble sur Calade.
Allez, on va souffler un petit peu, on va prendre notre temps, on va écouter un morceau qui s'appelle Tapioca et qui est chanté par un groupe qui s'appelle Melodia et c'est très cool. Du groupe Tapioca sur Calade.
Ensemble sur Calade.
L'humeur littéraire du libraire.
Et oui, il est l'heure de retrouver notre libraire Bertrand Lamure. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bon, j'espère que vous allez bien, que le jubilé de la reine s'est bien passé pour vous.
Ça y est, ouais, elle a été extraordinaire dans son, dans son petit manteau vert pomme flashy. Moi, je vis avec les Anglais, hein, 96 ans, avec les Anglais pour s'habiller comme ça, quoi.
Bon.
Mais bon, bah voilà, enfin, j'avoue que je regardais un peu...
Un peu de loin.
Comme ça, en diagonale.
D'accord.
Ouais. Mais non, je n'étais pas à Londres ce week-end. Non, mais voilà, c'était...
Bon,
elle a l'air plutôt en forme.
Bah oui, elle a tenu le coup.
Brave dame.
On s'était posé la question, elle a tenu le coup.
Alors ça tombe bien, parce que ça fait une bonne transition.
Ouais.
Il y a longtemps que j'avais envie de l'évoquer, parce que c'est... une sorte de maison d'édition que j'aime beaucoup. Alors, en règle générale, tout le monde connaît plus ou moins les centres des monuments nationaux, ce qui, dans notre jargon, s'appelle le MNM. Alors, le centre des monuments nationaux, hein, pour ça que le lien avec la reine est là, hein, c'est cette organisation qui dépend du ministère de la Culture et qui gère tous les monuments en France, toutes les restaurations, etc. Donc évidemment, c'est un centre d'une importance énorme. Hein. Voilà, en gros, il n'y a pas que Stéphane Bern pour le patrimoine français, j'allais dire heureusement.
Ouais.
Donc voilà, très, très belle maison qui date du 19e siècle. Et ce centre des monuments nationaux a une maison d'édition, justement, qui s'appelle les Éditions du patrimoine. Et alors, à chaque fois que je vais dans un musée, dans un dans un monument historique, il y a toujours le problème, il y a toujours une boutique dans ces musées, dans ces châteaux, ce qui est absolument insupportable. Je suis incapable de résister, voire même j'achète des livres.
Ah oui.
Donc là, c'est une sorte d'addiction. Je vois, il y a un truc. Mais j'ai rendez-vous avec un psy, donc ça devrait bien aller.
Bon.
Et du coup, il y a vraiment une richesse, donc évidemment patrimoniale, une richesse historique et autre qui est vraiment très intéressante. C'est pour ça que je voulais vous parler aujourd'hui des éditions du patrimoine. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ces éditions du patrimoine qui sont une émanation, vous avez bien compris, du Centre des Monuments Nationaux. Alors, pour faire simple, là, on va pas trop rentrer dans le détail. Alors déjà, ces éditions, c'est du service public, hein, puisque ça dépend du coup du ministère de la Culture, et ils ont quand même la vocation à la fois de rendre compte des derniers acquis de la recherche, de mettre en avant le patrimoine mobilier, architectural, archéologique, et puis de diffuser tout ceci. Et alors, un public qui peut être un public d'amateurs, un public qui peut être de professionnels, de chercheurs, d'étudiants, mais aussi pour les enfants. Mmh. Et puis évidemment, il y a des choses très ciblées, vraiment ultra pointues. Ce qui fait qu'ils ont une activité éditoriale qui est quand même très très riche, puisqu'ils ont une quarantaine de nouveautés par an, et il existe des centaines aujourd'hui de guides, de monographies, de livres d'art, sur toute une série de sujets. Et alors, je trouve que c'est absolument passionnant. Donc, juste déjà pour les nouveautés, hein, de ce mois de juin, pour vous donner un petit peu l'idée. Deux nouveautés qui se recoupent, non, trois nouveautés, on remarque même les trois. Voilà. Dernière nouveauté, vous avez l'hôtel de la Marine à Paris, qui est sur la place de la Concorde. Donc cet hôtel de la Marine tout le monde connaît, j'imagine un petit peu la place de la Concorde et ces deux bâtiments qui sont au fond. Vous avez cet hôtel de la Marine qui a été au XVIIIe siècle le garde-meuble de la royauté. Donc un lieu assez extraordinaire où les modes se faisaient, où les créations se faisaient pour Versailles. Et principalement pour la royauté. Ce lieu-là vient d'être restauré. Alors pourquoi l'hôtel de la Marine? Parce que depuis la Révolution française, ça a été le siège du ministère de la Marine. Il vient d'être rénové, c'est une rénovation d'ailleurs magnifique. Et là, il y a une exposition qui se met en place, qui s'appelle Gulbenkian, intimité d'un collectionneur, donc grand collectionneur, richissime bien évidemment. Et tout ça dans le cadre de la collection beaucoup plus large, qui s'appelle la collection Altani. C'est le monde magnifique du Qatar. Donc c'est pour montrer, voilà. Et puis à l'inverse, par exemple, voilà, je continue parce qu'il y en avait deux autres. Il y avait tout simplement une petite histoire de l'hôtel de la Marine. Et il y avait pour les enfants, qui sort aussi au mois de juin, un petit texte qui a l'air assez génial, qui est l'incroyable voyage de l'Obélix. Qui est aussi, donc on sait l'Obélix sur la Concorde, pour ça que tout se suit. Alors, c'est vraiment un petit album adorable, tout en images pour les enfants, expliquer comment on est arrivé au 19e siècle, aller au fin fond de l'Égypte, prendre ce fameux obélix qui nous avait été donné par Mohamed Ali, Mehmet Ali plus exactement, et de le faire venir jusqu'à Paris. On n'imagine pas le travail que ça nécessitait, les efforts titanesques qu'il a fallu. Alors voilà, pour vous situer par exemple les nouveautés de ce mois de juin. Mais beaucoup plus large, alors je ne vais pas vous citer tout le catalogue, nous n'avons pas le temps, mais je trouve que c'est intéressant de voir les différentes collections qu'il peut y avoir. Vous allez avoir une collection, par exemple, photographie. Ouais. Donc, on revient sur les grands photographes entre 19e et 20e. Par exemple, je suis tombé, moi, sur le monde de Victor Hugo. Alors, je l'ai également à titre personnel. Et c'est le monde de Victor Hugo vu par Nadar, donc le grand photographe du 19e siècle. Mmh. Et alors là, on a toute une galerie de personnages absolument extraordinaires, puisque évidemment, tout le monde voulait poser devant Nadar, ça faisait bien, c'était puis c'était un peu moins long que de faire le portrait ou en peinture. Et alors, c'est absolument génial. On a la même chose avec Proust, hein, le monde de Proust vu par Nadar. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Alors après, on a tout le côté patrimoine, c'est-à-dire avec toutes des monographies, des historiques sur des châteaux ou autres. Moi, je suis tombé sur le château des Tuileries. Ouais. Donc, il avait brûlé pendant la Commune. Et alors là, c'est un livre absolument extraordinaire sur tous les décors de ce palais disparu. Absolument magnifique. Toujours pareil, si on reste un tout petit peu encore à Paris, il y en a un que alors, je connaissais pas du tout, qui s'appelle le château de Maison. Donc un château qui s'appelle Château de Maison à Paris. Ouais. Très très beau, parce que c'est Mansart qui l'a fait. Donc Mansart, ça sera Versailles après. Et donc c'est toute l'histoire quelque part un peu presque de France, de l'architecture française, depuis Louis XIII jusqu'à aujourd'hui. Si on va beaucoup plus loin, on a dans le sud de la France la villa Kérylos, qui doit être à côté de Nice, à Beaulieu, je crois. Et la villa Kérylos, qui est une villa assez extraordinaire, faite par Salomon Reynac au début du XXe siècle. Et on voulait reproduire ce qui était une villa grecque, donc il y a 2500 ans. Ça a été fait par Adrien Goetz, qui est un historien de l'art, très très pertinent, très intéressant. Voilà, c'est assez magique. Plus proche de nous, très bel album sur l'abbaye de Cluny, très bel album sur l'abbaye de Broux, qui n'est pas une abbaye, mais je vais oublier ce que c'était. Alors voilà, c'était pour vous citer qu'il y a plein de choses possibles. Alors pour ceux qui aiment le patrimoine, pour ceux qui aiment l'histoire, qui aiment les belles photos, je trouve ça extraordinaire. Alors, il y a aussi, après, tous les guides. Ouais. Alors, il y en a beaucoup quand même sur Paris. Hein. Le guide de Paris au Moyen-Âge, les peintres à Paris, voilà. Et il y a tout le tralala là-dessus. Alors après, moi, je suis tombé sur des choses qui sont très, très bien également en BD. Qui préfèrent aller en BD. Donc par exemple, il y en a un qui s'appelle Les Gardiens de la Pierre. C'est pour les enfants. C'est une BD sur le Mont Saint-Michel. Donc voilà, très bien faite, un peu sous forme un peu d'enquête. Pour les adultes, par exemple, on a Ma vie à Nohant, donc de Georges Sand, hein, Georges Sand dans son château, maison de Nohant. Plutôt bien fait, la couverture, je suis pas très fan, donc j'avais un peu peur, et en fait, plutôt très très bien. Et puis quelque chose qui, alors moi j'en ai lu un, que j'avais trouvé pas mal, j'avais quelques appréhensions, c'est du polar. Et du polar un peu historique, un peu patrimonial. Ouais. Je vous citais Adrien Goetz avec la Villa Kérylos. Il fait aussi, lui, des polars avec une conservatrice qui s'appelle Pénélope, qui est un peu fofolle. Et en fonction des lieux où elle est conservatrice, eh bien, il y a une enquête historique. On a eu effectivement autour de la tapisserie de Bayeux, il y a eu évidemment au Louvre, etc. Alors là, ils ont déjà sorti quelques petits polars dans la collection Crimes et Monuments. Ouais. Et un que moi j'ai lu qui sont justement toujours aussi sur le Mont-Saint-Michel, Les Diables du Mont-Saint-Michel. Alors là, on est au 15e siècle et on déambule dans le Mont-Saint-Michel. C'est assez génial. Et ils viennent d'en sortir un où là, on déambule dans l'île de la Cité, donc toujours à Paris, pendant le Second Empire. C'est voilà, des petites ruelles un peu glauques, etc. Mmh. Et il y a plein de choses. Donc tout ça pour dire que les éditions du patrimoine, ceux qui s'intéressent un peu à cet univers, et puis la prochaine fois que vous serez dans une boutique de musée, mais même dans une librairie, parce que nous avons de temps en temps des éditions du patrimoine, même si c'est souvent de très beaux livres, il y a vraiment une mine d'or à dénicher. Ouais. Donc on en parle rarement parce qu'on a toujours l'impression que c'est des petits guides un peu vieillots, mais pas du tout. Il y a vraiment des choses très très bien faites, de très 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 grande qualité.
Très bien.
Donc,
pas hésiter
idéal. Après la reine d'Angleterre, j'ai essayé de suivre mon cheminement patrimonial et je crois que là, par contre, je suis désolé, il n'y a rien sur la reine d'Angleterre parce que l'Angleterre n'est plus française depuis la guerre de 100 ans quand même.
Et oui, malheureusement.
Voilà.
Très bien. Merci beaucoup Bertrand.
Eh ben avec grand plaisir. Et puis si vous savez pas quoi faire cet après-midi, vous pouvez aller à Chantilly, vous pouvez aller à l'hôtel de la Marine ou à la Villa Kérylos. C'est un petit bijou, je l'ai visité, j'en garde un souvenir ému.
Très bien, merci beaucoup, à très bientôt.
Bonne journée à tous.
Ensemble sur Calade.
Allez, c'est la fin de notre émission Ensemble sur Calade. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous le retrouverez bien évidemment en podcast sur radio-calade.fr et la rediffusion, ce sera demain matin à 10h. D'ici quelques secondes, moins d'une minute, vous retrouvez vos pages d'information quotidiennes. Il y aura le journal de RFI, bien entendu, à 13h pour toute l'information internationale et nationale. Et puis à 13h10, c'est le journal de Sylvie Rosier. Et puis si on continue le programme qu'on déroule un petit peu, à partir de 14h, vous retrouvez Georges Botton pour son émission, la 101e émission de jazz traditionnel. Et puis un petit peu d'autres choses, du gospel, ce genre de choses. Et puis à 15h, vous avez votre émission, votre magazine L'Imaginoire. Voilà, puis pour le reste de la programmation, je vous laisse aller faire un tour sur notre site internet radio-calade.fr. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Rendez-vous demain à 12h12 pour un nouveau numéro d'Ensemble sur Calade. Prenez bien soin de vous et demain, ciao ciao.
Ensemble sur Calade.